Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'affaire du Grêlé est résolue. Cette affaire non élucidée hantait les enquêteurs de la police judiciaire depuis plus de 30 ans. Soupçonné d'au moins 3 meurtres et 6 viols, le Grêlé était recherché depuis les années 80. On sait formellement aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme au-dessus de tout soupçon, un retraité de la gendarmerie, un papy poule, considéré comme un chic type par ses voisins. Code Source raconte l'affaire du Grêlé en 2 épisodes, le premier aujourd'hui, avec 2 journalistes du Parisien, Damien Delceni, chef du service police-justice, et Denis Courtine, du service Enquête Île-de-France. Le jeudi 30 septembre, l'actualité est marquée par la condamnation de Nicolas Sarkozy à de la prison ferme dans le cadre de l'affaire Big Malion. Mais vous, Denis Courtine, ce jour-là, il y a une autre affaire qui vous occupe. Vous avez eu un tuyau sur un dossier important.
Ouais, on vient d'apprendre que la veille au soir, un homme retraité s'est donné la mort dans un appartement au Grenurois, un appartement qu'il venait de louer, et il a laissé un courrier adressé à sa femme dans lequel il avoue qu'il a commis des choses abominables dans sa jeunesse.
Et il devait être entendu par les enquêteurs dans le cadre de l'affaire dite du Grêlé. Damien Delceni, pourquoi cette affaire a beaucoup marqué les enquêteurs ?
Parce qu'elle n'est pas résolue, parce que ça fait plus de 35 ans que le Grêlé, c'est un portrait robot en noir et blanc qui est resté toujours dans les couloirs de la PJ, de la crime à Paris. Et c'est un dossier qui hante en fait la PJ depuis 35 ans. Et on a tous vu au moins une fois le portrait robot de cet homme et puis ses défaits qui sont extrêmement glaçants aussi. Voilà, c'est pour ça que c'est une affaire qui a beaucoup marqué, et la police, et plus encore.
Denis Courtine, à ce stade, j'imagine que vous restez prudent ?
Évidemment, on reste prudent. Il y a un courrier où il y a des aveux qui sont faits, mais dans l'attente d'un résultat ADN, on ne peut pas certifier qu'il s'agit bien du Grêlé.
Parce qu'il a dit quoi, en quelques mots, dans ce courrier ?
C'est un courrier qu'il adresse à sa femme, dans lequel il explique qu'il a commis des actes irréparables à l'époque de sa jeunesse. Sa femme aurait d'ailleurs suspecté, c'est ce qu'il dit, enfin du moins tu t'étais douté de quelque chose, et en tout cas il explique qu'il a tué des gens innocents.
François Vérove habitait à la Grande Motte dans l'Hérault, il a longtemps vécu à Prades-le-Lez dans le même département. Pour tous ses voisins, qui ne savent pas à ce moment-là qu'il est mort, qui est-il, François Vérove ?
François Vérove, pour tous ses voisins, pour tous ceux qui habitent près de Lelay, c'est un type formidable, un type très sympa, un type qui a été conseiller municipal, qui s'est impliqué dans la vie de la commune et qui est quelqu'un qui rend des services et qui représente une certaine, quasiment une forme de notable dans cette ville.
Il a 59 ans, il est marié, il a 2 filles, il est même grand-père.
Alors ses enfants vivent plus évidemment avec lui. Lui, par contre, il est toujours avec sa femme qu'il a rencontrée il y a très longtemps dans le nord de la France. Et effectivement, il a 2 gamines et des petits-enfants qui promènent. D'ailleurs, on le voit sur une de ses photos, on le voit promener ses petits-enfants avec son vélo.
Il a des passions ?
La seule passion connue, du moins pour l'instant, c'est la moto. De son adolescence, où il faisait la motocross dans le quartier, ensuite son intégration à la garde républicaine, il a quasiment toujours fait de la moto, jusqu'à son accident à la fin de sa carrière, où il s'est mis à boiter. Enfin, il y a eu des complications d'après un voisin de Prades-le-Lez à l'hôpital. Il ne pouvait plus faire de la moto.
Denis Courtine, ce jour-là, peu avant 13h, vous êtes le premier à publier un papier sur le sujet, sur leparisien.fr. Vous racontez le suicide d'un homme potentiellement suspect dans l'affaire du Grêlé. Mais avec des précautions, le nom de famille, par exemple, n'est pas donné. En tout cas, l'information est très largement reprise ensuite.
Le Grêlé, c'était un tueur en série. Et celui qui pourrait être le Grêlé, On a appris aujourd'hui son suicide, Olivier.
Oui, et l'homme a été retrouvé mort au Gros du Roi, dans le Gard. Un homme qui aurait mis fin à ses jours dans un appartement de location où il aurait laissé donc une lettre d'aveu. Il aurait avoué.
Damien Delceni, pour bien comprendre l'importance de cette information, il faut reprendre l'histoire du début. En 1986, le lundi 5 mai, le corps d'une fillette est retrouvé dans le sous-sol de son immeuble à Paris, dans le 19e arrondissement.
La rue Petit, dans le 19e arrondissement. Des grands ensembles modernes où logent 850 personnes. Cécile habitait au troisième étage du 116 avec ses parents.
En fait, Cécile Bloch, c'est une enfant de 11 ans qui est assez autonome et qui, quand elle rentre du collège le midi, a l'habitude de manger toute seule chez elle. Mais à chaque fois, sa maman lui passe un coup de fil pour vérifier qu'elle est bien là. Et ce jour-là, quand sa maman l'appelle pendant la pause déjeuner, le téléphone ne répond pas. C'est un téléphone fixe à l'époque, bien sûr. Sa maman s'inquiète tout de suite parce que c'est vraiment une petite fille qui est très sérieuse, qui n'a pas l'habitude de traîner dans les rues. Donc elle ameute un petit peu tout ce qu'elle peut, on commence à la chercher un peu partout dans la résidence, le gardien cherche et puis en descendant au troisième sous-sol, il découvre une main en fait qui sort d'un morceau de moquette qui a été posé là et on comprend très vite que dans ce morceau de moquette il y a un corps. Donc elle est retrouvée, elle a été étranglée, violée, frappée de plusieurs coups de couteau.
La petite fille gît au troisième sous-sol dans le parking, poignardée derrière une porte fermée.
Et donc les policiers de la CRIM démarrent leur enquête à ce moment-là.
Cécile Bloch avait 11 ans, ses parents, tout comme son demi-frère et d'autres voisins, ont vu un homme suspect.
Alors effectivement, ce jour-là, dans cette résidence, il y a plusieurs personnes qui vont croiser un homme qui a un comportement un peu malaisant, un peu gênant dans l'ascenseur, qui fait des allers-retours, qui a l'air de faire un petit peu des repérages. Et le propre demi-frère de Cécile Bloch va le croiser dans l'ascenseur. Donc c'est un moment où forcément il est proche de lui, où il se parle d'ailleurs. Lui trouve qu'il a un ton très obséquieux. Il est tout de suite mis mal à l'aise par ce type. Et il donne une description physique assez précise. Il parle à ce moment-là effectivement de cette peau qui est abîmée, probablement pour des problèmes de boutons qu'il a eu plus jeune. Et donc il décrit quelqu'un, c'est de là que va venir le surnom Le Grêlé d'ailleurs. Et quand le portrait robot est dressé à partir du témoignage de ce demi-frère et du témoignage de plein d'autres personnes qui l'ont croisé à l'époque ce jour-là dans la résidence, il est plutôt grand, plutôt jeune, entre 25 et 35 ans. Effectivement, des cicatrices sur la peau, des cheveux, voilà, une mèche de cheveux un peu sur le front. Enfin, des yeux aussi, des orbites un peu creuses. Il y a des portraits robots qui parfois ne ressemblent pas à grand-chose. Autant celui-là, il y a eu beaucoup de témoignages qui ont été assez concordants. Donc on arrive à une description quand même assez précise.
Nous sommes dans les années 80, les policiers n'ont pas l'arme de l'ADN, pas d'ordinateur, ils épluchent les fiches des affaires récentes à Paris. Denis Courtine, il trouve un cas comparable, celui du viol d'une fillette dans la capitale, un mois plus tôt, le 7 avril.
Oui, c'est la petite Sarah, donc les enquêteurs vont évidemment s'intéresser à ce viol. En fait, c'est une gamine qui habitait Place Vénissy, dans le 13e arrondissement, et c'est un peu le même mode opératoire que pour Cécile Bloch, c'est-à-dire qu'il monte dans un ascenseur, la petite Sarah, elle part à l'école, c'est le matin, il est un peu plus de 8 heures, et il la conduit jusqu'au sous-sol en fait, de l'immeuble, et là, il la viole et il la laisse pour morte dans le sous-sol.
La fillette de 8 ans était évanouie, elle reprend conscience environ un quart d'heure plus tard et elle parvient à défaire les liens qui enserraient ses poignets pour aller chercher du secours. Plus tard, les enquêteurs de la PJ lui présentent le portrait robot du Grêlé, dessiné après le meurtre de Cécile Bloch, et Sarah reconnaît son agresseur. Damien Delceni, un an plus tard, le 27 octobre 1987, une ado de 14 ans, Marianne, est violée à Paris par un homme se faisant passer pour un policier.
Ce violeur, il va présenter une carte à la victime. Il va d'ailleurs prétendre travailler sur le trafic de stupéfiants dans le quartier. Donc il présente cette carte tricolore. Évidemment, c'est pour à la fois neutraliser sa victime et la mettre en confiance dans un premier temps. Elle va être ligotée, bâillonné, ligoté, il va ensuite la violer. Donc on a une description encore assez précise d'un mode opératoire et de l'utilisation d'une carte professionnelle.
Damien Delceni, à ce stade, de quels éléments disposent les enquêteurs sur ce meurtrier et violeur en série potentiel ?
Ils disposent de peu de choses et de beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce qu'ils ont un portrait robot, ils ont un descriptif. Ils commencent à avoir quand même une idée de la zone géographique dans laquelle ils frappent, parce qu'ils frappent quand même dans des arrondissements assez particuliers de Paris, le 13e, le 14e. Ils ont un mode opératoire qui n'est pas forcément toujours le même, mais qui se dessine quand même, des immeubles, des ascenseurs, des jeunes filles plutôt ados qui sont abordées. En revanche, on est à la préhistoire absolue de la police technique et scientifique. Tout se fait un petit peu à la main, même si c'est la brigade criminelle qui centralise les investigations. Ben, y a des affaires qui peuvent rester dans des commissariats de quartier dont on n'entend pas parler. Enfin, tout ça est très artisanal à l'époque.
L'enquête ne progresse pas et en 1988, le père de la petite Cécile Bloch demande aux enquêteurs d'utiliser une technique naissante, toute nouvelle, l'ADN.
Oui, en fait, c'est le demi-frère de Cécile Bloch qui s'est documenté sur la question et qui a découvert les travaux d'un chercheur sur l'ADN. Et à l'époque, cette famille, elle est dans le chagrin, elle est dans la terreur. En même temps, il n'y a pas de réponse. L'enquête, elle n'avance pas, elle ne tire pas de pistes sérieuses. L'ADN, c'est vraiment, voilà, c'est la fin des années 80, c'est tout début de cette technique qui est d'ailleurs complètement en phase de test à ce moment-là. Mais on sent qu'il y a une volonté, en tout cas des parents évidemment et des proches, d'essayer d'obtenir quelque chose de ces progrès scientifiques. Mais voilà, les scènes de crime à l'époque, elles ne sont pas traitées tout à fait de la même manière. Ce qu'on sait à l'époque simplement du travail qui a été fait sur l'affaire Bloch, c'est qu'on a un groupe sanguin à partir du sperme. On sait que c'est le groupe A. Alors, c'est une information, mais le groupe A, c'est très répandu. Donc, ce n'est pas une information, en fait, véritablement décisive dans le dossier.
Les mois et les années passent, rien de concret, rien de tangible. En 1993, l'enquête sur le meurtre de Cécile Bloch est classée sans suite, motif, auteur non identifié. L'année suivante, Denis Courtine, en 1994, le 29 juin, à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne, une enfant de 11 ans, Ingrid, est enlevée.
Ouais, elle est enlevée par le conducteur d'une voiture blanche qui l'enlève dans la rue, à Mitry-Mory, et qui la conduit très loin de là, dans la banlieue sud, jusqu'à Saclay, dans une ferme. Donc il lui montre des BD sadomaso et il la viole sur place.
Dans l'après-midi, l'homme part de la ferme. À un moment, il dit qu'il va chercher à manger et qu'il va revenir. La fillette attend 5 minutes et s'enfuit. Aux gendarmes, elle raconte comment il l'avait fait monter dans sa voiture. Il s'est fait passer pour un policier. Il lui a demandé ses papiers, elle n'en avait pas. Il lui a dit « Je vais t'emmener au commissariat ». Ingrid donne aux enquêteurs une description précise de son agresseur et de sa voiture, une Volvo claire. Quelques mois plus tard, le mardi 25 octobre, les enquêteurs interpellent un suspect à Conches-sur-Gondoire, toujours en Seine-et-Marne, un certain Claude P. et Denis Courtine. Ils passent aux aveux.
Alors Claude P, oui, c'est un homme de 36 ans. Il avait déjà été surpris en train de... Il avait essayé d'embarquer à bord de son véhicule, justement une voiture blanche, deux jeunes filles, près de Mitry-Mory. Et donc forcément, les policiers font le lien, ils le placent en garde à vue. Et lors de sa garde à vue, il passe aux aveux et dit « Bah oui, effectivement, j'ai bien violé quelqu'un ».
La petite Ingrid doit formellement identifier et reconnaître son agresseur. Pour l'aménager, les enquêteurs ne lui soumettent pas une photo de Claude P, mais 7 portraits robots. Ingrid s'arrête sur le dessin numéro 6.
Ouais, sur le dessin numéro 6, donc c'est pas celui du suspect qui vient d'être placé en garde à vue, mais c'est celui de l'homme qui a violé la petite Marianne en 87.
La juge en charge du dossier décide de comparer l'empreinte génétique du suspect, Claude P., avec celle extraite du sperme du violeur d'Ingrid qu'on a retrouvé sur la petite fille. La comparaison est négative. L'homme est donc innocenté et relâché malgré ses aveux. Damien Delceni, on le voit, la science de l'ADN progresse. Et au printemps 1996, l'enquête sur la mort de la première victime, Cécile Bloch, 11 ans, est rouverte. La juge d'instruction en charge du dossier demande au CHU de Nantes une expertise des traces de sperme présente sur la moquette et les vêtements de la victime.
On est 10 ans après la mort de Cécile Bloch, l'ADN a progressé, on peut maintenant extraire plus de choses, on peut révéler plus de choses. Donc effectivement, on relance l'enquête Bloch en se disant que peut-être avec les nouvelles armes scientifiques dont on dispose, on va enfin pouvoir aussi avoir cette carte d'identité génétique du violeur et du tueur de Cécile Bloch.
Et c'est ce qui est trouvé.
On arrive enfin, 10 ans après, à avoir cette fameuse trace et à ne plus avoir juste un groupe sanguin ou quelques éléments un peu disparates. Là, on a la carte d'identité génétique du tueur.
Et grâce à cette carte d'identité génétique, le 24 octobre 1996, le lien est fait entre plusieurs affaires du Grêlé.
On sait maintenant avec certitude scientifique que le Grêlé est la même personne qui a violé Marianne, Sarah et qui a violé et tué Cécile Bloch.
des années plus tard, en 2000, juste avant Noël, le 21 décembre, une juge d'instruction qui a repris le dossier Cécile Bloch reçoit sa famille. Après cette rencontre, la magistrate ordonne à tous les laboratoires du pays de comparer systématiquement l'ADN du grêlé avec ceux dont il dispose déjà. Et rapidement, le 9 janvier 2001, cette vérification donne un résultat qui stupéfie les enquêteurs. Suite et fin de ce podcast dans le prochain épisode de Code Source avec Damien Delceni et Denis Courtine du Parisien. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir de la semaine sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée, et vous pouvez aussi nous écrire directement pour nous faire des retours. Code Source @leparisien.fr.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.